se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
Willy Sagnol.
Bonjour à tous, je m'appelle Willy Sagnol, j'ai 42 ans, je suis un ancien joueur de foot professionnel, j'ai gagné une fois la Ligue 1, 5 fois la Bundesliga, une fois la Ligue des Champions, j'ai également perdu la Coupe du Monde 2006 et ensemble nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs sur RMC, votre nouvelle émission durant les fêtes de Noël avec les membres de la Dream Team. C'est tous les soirs de 20h à 21h. Aujourd'hui, nous sommes avec Willy Sagnol. Salut Willy.
Salut JC.
Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes échecs, aussi ta vie extraordinaire. Ton boulot est très simple face à toi. Une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer un à un. Dessus, un mot, une date, un moment. Ça va forcément te rappeler quelque chose et tu vas pouvoir nous raconter. Est-ce que c'est bon pour toi, mon Willy?
Il n'y a pas de truc à gagner
Alors non.
Ah bon?
Non, il n'y aura rien à gagner. Il n'y aura rien à perdre non plus. Mais beaucoup à gagner pour les auditeurs qui vont t'écouter, te livrer évidemment sur ta carrière riche en émotions. Je le sais. Pas trop stressé avant de débuter?
Pas du tout.
Pas du tout?
Pas du tout.
Alors nous allons attaquer avec le premier papier de la boîte à souvenirs. Willy Sagnol, tu peux mettre ta main innocente dans cette boîte à souvenirs et tu as tiré...
J'ai tiré mariage 2008.
Mariage 2008. On est en juillet 2008. Tu vas te marier. Je ne vais pas forcément évoquer ta vie personnelle à ce moment-là, mais ta vie professionnelle, car ce mariage, il y aura un acte symbolique, assez fort en tout cas, où tu vas convier une certaine personne avec qui tu n'étais pas embrouillé, c'est pas le terme, je parle de Zinedine Zidane, mais avec qui il y avait peut-être un petit peu moins de relations. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et ensuite, on reviendra évidemment sur la Coupe du Monde 2006, mais tu as invité Zidane à ton mariage.
Il faut se remettre, il y a longtemps, dans le contexte. Et, après 2006, c'est vrai qu'après ce qui s'est passé en finale, comme beaucoup, on a eu un peu les boules, c'est normal. On l'a tous exprimé d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui ont préféré le garder pour eux, il y en a qui ont préféré le dire publiquement. Mon caractère faisant, j'ai préféré le garder un peu plus pour moi à ce moment-là, mais ça n'empêche pas que j'avais une certaine rancœur. Voilà, j'avais un mauvais goût dans la bouche. Quand dans les préparatifs du mariage, c'est un jour, c'est ma femme qui me le dit. Elle me dit, tu devrais quand même l'appeler, lui envoyer un message pour lui demander s'il veut venir. Parce que voilà, ça reste que du foot, ce qui s'est passé. Même si c'est un rêve qui est parti, ça reste que du foot, entre guillemets. Donc, appelle-le, demande-lui. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message et puis il m'a dit, ok, d'accord, sans problème. Par contre, il pouvait pas venir plus tard pour la cérémonie, mais il est venu en fin de matinée. On a pris l'apéro et on a mangé ensemble et c'était sympa.
Et c'était sympa, évidemment, d'avoir Zinedine Zidane qui a beaucoup compté dans sa carrière. On va en reparler.
C'est pas que c'était sympa d'avoir Zinedine Zidane, c'était sympa d'avoir un copain à son mariage. Ouais.
Exactement. Tu parlais de 2006. Je voudrais te repasser ce moment, évidemment. Cultissime, Thierry Gilardi au commentaire.
Pas ça, Zinedine. Non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Italie championne du monde. 4e victoire de l'Italie en Coupe du Monde.
Moi, j'ai encore le cœur de supporter qui saigne. Alors toi, le cœur de joueur, ça doit être évidemment autre chose. Je sais très bien, Willy, que tout ce qui se passe dans un vestiaire reste dans un vestiaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle était l'ambiance générale et ton ambiance? Je sais que toi, tu en as souffert, mais comme évidemment tous les joueurs à ce moment-là dans le vestiaire, tu en veux un peu à Zidane d'avoir fait ce geste, même si tu le comprendras certainement par la suite, je ne sais pas. Mais à ce moment-là, c'est assez dur à avaler.
On est tous humains, donc on a tous des... Personne n'est parfait. Et forcément, quand tu as des grosses défaites comme ça, des gros échecs ou un rêve qui s'en va, tu cherches absolument c'est la faute à qui. Tu vois, tu vas jamais te dire c'est peut-être ma faute à moi, j'ai peut-être mal fait certaines choses ou pas. Tu vas toujours rejeter la faute sur les autres. Oui, j'en ai voulu à Zizou, mais pas qu'à lui. J'en ai voulu à la terre entière, j'en ai voulu au quatrième arbitre d'avoir vu ça sur une vidéo, alors qu'à l'époque ça servait. Enfin, on n'avait pas le droit d'utiliser la vidéo, donc faut quand même s'y remettre dans le contexte. C'est une décision qui était prise avec la vidéo, alors que c'était interdit à l'époque. Et voilà, ça fait mal quand ça s'arrête.
T'as envie de l'engueuler ou pas à ce moment-là dans le
vestiaire ? Non. À un moment donné, ton cerveau reprend un peu le dessus et tu sais que ça sert à rien devant tout le monde, ça sert à rien. De toute façon, tu peux pas changer les choses.
Alors tu me dis que tu en as voulu à la terre entière. Peut-être à toi aussi durant cette finale, car nous sommes dans la période de prolongation. Tu vas centrer pour un homme, pour Zidane, qui va réaliser une tête magnifique. Arrêt de Buffon.
Un bon centre pour Trezeguet.
Trezeguet marqué par Cannavaro, c'est Zidane.
Oh, Zizou !
De la tête et la claquette de Buffon.
Oh, Zizou !
Alors toi, le centreur hors norme, c'est un mauvais centre ou pas ?
Ben, c'est pas le centre parfait, ouais. C'est pas le centre parfait. Alors, sur le coup, je me pose pas cette question. Sur le coup, je centre parce que c'est ce que j'ai l'habitude de faire, par réflexe, par ressenti. Mais après, en revoyant les images... Alors je vois que j'ai un défenseur face à moi, enfin qui est dans mon angle en fait de centre enroulé. Donc si j'avais réussi à peut-être raser encore un peu plus le défenseur, ça aurait permis peut-être à Zizou d'arriver encore plus lancé et d'être encore plus proche du but et peut-être de marquer.
Alors il y a cette séance de tir au but à laquelle tu vas participer. On va écouter ce moment où tu frappes ton tir au but. Je rappelle que si tu le rates, c'est terminé. Et si tu le marques, Fabio Grosso n'a plus qu'à marquer le sien pour être qualifié, pour gagner la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs ce qui va se passer.
Balle de match pour Willy Sagnol.
C'est parti, ça passe.
Balle de match.
Il a les nerfs solides. Tu fais partie des cadres de cette équipe de France. Pourquoi tu vas tirer ?
Je ne sais pas encore. Parce que je sais que quand on est sur le terrain encore, donc juste avant la séance, et que... Il y a Domenech Domenech qui vient vers moi, qui me parle, et je suis pas dans la séance de penalty, et je sais que je lui dis oui, mais sur le coup je lui dis oui dans le sens où oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous voulez, et en fait il prend le oui pour un oui, et okay. Je me rends compte que j'ai dit oui, mais je me dis je peux pas faire marche arrière, ça se fait pas marche arrière, parce que moi je suis pas un habituel tireur de penalty, j'ai dû en tirer 2-3 dans ma carrière, pas plus. Et puis finalement je me dis puis zut, alors j'étais peut-être pas dans les plus anciens en termes d'âge, mais ça faisait un petit moment que j'étais là. Je me suis dit si c'est pas toi qui tire, tu vas quand même pas demander à un gamin de 20 ans d'aller tirer. Donc
voilà. Tu te sentais une forme de responsabilité. On sait par exemple qu'en 98 face à l'Italie en quart de finale, Trezeguet, Henry sont envoyés au charbon alors qu'ils ont à peine 20 ans. C'est ton devoir à ce moment-là d'aller tirer, même si t'es pas un spécialiste.
Alors c'est mon devoir, oui je pense. Après Je sais au fond de moi que les précédents pénaltys que j'avais tirés, peut-être avec le Bayern sur des matchs de coupe, je les avais marqués. Donc je me disais je peux le refaire, c'est pas grave. Mais après je comprends aussi certains mecs qui par le passé sur des grandes compétitions, à un moment donné on dit non, moi je peux pas tirer. Si quelqu'un se sent pas, de toute façon on sait que le pénalty il a une chance sur deux d'être raté. Donc il vaut mieux qu'il reste sur le côté puis qu'il laisse à la rigueur tirer même un plus jeune avec ou plus de baloche ou plus de sang-froid.
Autre papier dans la boîte à souvenirs pour Willy Sagnol sur RMC, sa boîte à souvenirs, le deuxième événement marquant de sa carrière.
Oh ça c'est un non-événement, mais commissaire Sagnol.
Commissaire Sagnol, c'est un non-événement, mais... Pour mieux comprendre ta trajectoire, pour mieux comprendre aussi l'homme que tu es, faites entrer l'accusé. Non, rassurez-vous, Willy Sagnol n'a pas été en prison, n'a pas été jugé pour quoi que ce soit. Mais tu rêvais pas du tout d'être footballeur professionnel.
Non, nullement. Parce qu'à l'époque, devenir footballeur professionnel n'était pas comme aujourd'hui, où tous les gamins du monde veulent être footballeur professionnel. À l'époque, c'était différent. Tu jouais au foot parce que t'aimais jouer au foot et puis tu continuais jusqu'à ce qu'on te dise maintenant t'arrêtes. Donc, fallait penser à autre chose.
Et toi, tu voulais être quoi alors ? Commissaire ? Commissaire de police ?
Alors, commissaire peut-être pour commander, tu vois, pour pas être le grade papier, même si j'ai beaucoup de respect pour les grades papier. Mais je sais pas, c'était peut-être aussi avec ce que je regardais à la télé, avec... J'ai toujours aimé l'ordre. J'ai toujours parfois ça me rend super chiant. Ça me rend Parfois, même beaucoup de gens pensent que je suis un peu, j'ai un côté un peu austère, un peu. En fait, c'est pas ça, mais j'aime quand il y a des règles, j'aime quand il y a un cadre. La loi, c'est la loi. Enfin, ça, c'est ma vie. Voilà.
Alors, ton papa, qui habite et vous habitez dans la banlieue de Saint-Étienne, découvre un jour dans Le Progrès une séance de recrutement pour Saint-Étienne et il te convainc. Peut-être pas très difficile, mais il te convainc d'aller passer un test là-bas, à Saint-Étienne.
Non, il ne me convainc pas. Il me force à y aller.
C'était pour être gentil.
Il me force à y aller parce que les souvenirs que j'ai, c'était un mercredi. Et le mercredi après-midi, c'était toujours sport scolaire. Et moi, le sport scolaire, c'était le jour dans la semaine que j'adorais parce que je faisais plein de choses. Je faisais du javelot, je faisais du triple saut, je faisais du 1000 mètres, du 3000 mètres. J'adorais ça.
Et finalement t'es recruté?
Tu écoutes ton père, t'y vas, voilà. Et on te demande de revenir.
On te demande de revenir et tu vas intégrer le centre de formation. Je ne sais pas si on l'appelait comme ça à l'époque, mais t'avais 11 ans, t'étais tout petit.
On va dire, tu signes une licence, voilà.
Voilà, on n'est pas encore dans les contrats,
évidemment,
tu es très jeune. Voilà pour l'enfance, résumée évidemment brièvement de Willy Sagnol. Autre papier dans la boîte à souvenirs, avec toi, Willy.
1er février 2009.
Qu'est-ce que ça t'évoque?
J'ai eu un doute quand j'ai vu la date. Maintenant, je me rappelle, c'est mon arrêt officiel.
Exactement. Tu es chez nos confrères de Canal+, lors du Canal Football Club, et voici ce que tu dis.
Déjà, de marcher, c'est difficile. Donc, d'essayer d'évoluer sur un terrain, ça aurait été encore beaucoup plus difficile. Les médecins, voilà, ont pris leur décision. Ils ont tout essayé. Je tiens à les remercier, tous ceux que j'ai côtoyés, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'issue possible.
C'était plus possible de continuer, oui.
Non. Plus possible parce que on est en 2009, parce que ça fait déjà depuis 2002 voire 2003 que j'ai mal au genou constamment. L'équilibre, on va dire, la balance plaisir douleur, à un moment donné elle a penché d'un côté et c'était plus possible.
Arrêté à 32 ans, est-ce que ça t'a fait mal?
Non, pas du tout. Pas du tout parce que toute chose a une fin, parce que j'ai eu aussi de la chance de pouvoir avoir une carrière riche et j'en étais très fier. Donc enfin, je voulais que les gens gardent l'image d'un joueur qui se battait, qui voulait bien faire les choses, qui essayait d'honorer les maillots, les différents maillots qu'il a portés. Et ça, c'était pour moi, j'y mettais un point d'honneur. Voilà, au Bayern, ils ont essayé de me dire non mais continue, mais c'est pas grave, même si t'es un peu moins bon, même si tu joueras un peu moins, mais c'est pas grave.
Tu voulais pas être moins
mais
bon.
Je pouvais pas, non, c'était impossible pour moi, ça aurait été trop dur à accepter. J'avais une telle relation avec les supporters du Bayern que je pouvais pas leur donner ça en échange.
Comment tu tournes la page? Ça se fait du jour au lendemain. On sait que quand on interroge des sportifs, souvent c'est là que intervient le
petit. Alors il y en a qui disent c'est une petite mort. Je pense que c'est une petite mort quand tu as le choix et qu'il faut prendre la décision et que c'est pas de gaieté de cœur et que tu arrêtes. Moi, ça n'a même pas été une décision puisque au contraire c'est un soulagement. C'est un soulagement physique et même aussi psychologique parce que tous les matins, se lever en ayant mal, ça a été difficile. Voilà, au bout d'un moment, j'en pouvais plus.
Je t'invite à choisir un nouveau papier. On est ensemble sur RMC.
Ah bah tiens, regarde, on a fait la fin. Là, c'est 27 février 96.
27 février 96, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le début?
Ça, c'est le début, ouais.
C'est quoi?
le début visible. Voilà.
C'est quoi, 27 février?
Je crois que c'est mon premier match en professionnel.
Alors, tu as une histoire particulière avec l'entrée dans le monde professionnel quand même, Willy. Tu joues donc pour Saint-Étienne, tu es un jeune du centre de formation et on t'appelle pour affronter Lyon en tant que Stéphanois. Comment ça se passe? C'est Maxime Bossis qui reprend l'intérim car Elie Baube vient de se faire licencier, ouais. On est en février 96 et donc il décide de faire monter les jeunes et notamment le surdoué Willy Sagnol.
Ouais, j'ai encore 18 ans à ce moment-là, j'ai pas encore mes 19 ans et voilà, lancé dans le grand bain alors que je m'y attends pas du tout. Parce qu'il y a eu les années qui ont précédé entre j'ai eu une grosse blessure à une cheville qui m'a tenu éloigné pendant un moment, j'ai eu un éducateur qui me faisait pas forcément confiance, puis il y a Saint-Étienne, faut se remettre dans le contexte, c'était à une époque aussi il y avait beaucoup de changements, c'était pas le Saint-Étienne d'aujourd'hui qui a une certaine stabilité en Ligue 1, on était toujours un peu ric-rac.
Ouais, c'était entre la D2 et la D1.
Voilà,
hein.
Voilà, donc un peu comme du jour au lendemain, c'était un mardi, si je me rappelle bien. Et je me rappelle même que maintenant je peux le dire, il y a prescription, puisqu'il y a 23 ans, même, je crois que j'en ai jamais même parlé à mes parents, à vrai dire. Trois jours avant, j'étais dans la neige avec des amis. Enfin, on alternait entre, on va dire, entre soirée arrosée et se jeter dans la neige comme des débiles, voilà, comme des débiles de 18 enfants.
Bah, voilà, comme des enfants. Et puis, tu rentres à Saint-Étienne et Maxime Bossis veut te voir. Et là, comment ça se passe ?
Bah, c'est très simple. On me dit, tu vas t'entraîner avec les pros cet après-midi. Et puis, voilà, on me dit pas plus.
Et tu vas être dans le groupe d'ailleurs. Maxime Bossis, premier invité de cette émission autour de Willy Sagnol, se souvient très bien de ce moment. Il vient de prendre l'équipe et là, il a une conviction.
Tout d'abord, j'avais vu à plusieurs reprises l'équipe réserve de Saint-Etienne et quelques jours avant le derby contre Lyon, j'étais allé voir Christian Ariep qui était directeur de la formation, donc cette équipe réserve, et il y en a un qui m'avait vraiment époustouflé. Et donc, j'ai demandé à Christian Ariep s'il était susceptible de remplacer à l'époque les latéraux qui étaient ou blessés ou suspendus. Et il m'avait dit oui, on peut lui faire confiance. Et en effet, avec ce que j'avais vu, je n'ai pas du tout hésité à le titulariser contre Lyon au stade Geoffroy Guichard. Évidemment, c'est pas évident de gérer la tension qu'il peut y avoir avant un derby contre les Lyonnais. Et donc, il n'a pas eu de réaction particulière. Donc, j'avais une petite peur qu'il soit submergé justement par la pression. Et en définitive, ça s'est passé totalement différemment. Et d'ailleurs, le public l'a vraiment découvert à ce match-là et commencé à l'applaudir. Donc, c'était bien parti pour une grande carrière.
Maxime Bossis, ton premier entraîneur, en tout cas celui qui t'a lancé dans le monde professionnel. Le mardi, tu apprends que tu es dans le groupe. Mais le mercredi, tu vas apprendre autre chose, je crois, quand on vient te chercher chez toi pour aller à Geoffroy Guichard.
Pour aller à l'hôtel, oui. C'est un de mes coéquipiers qui m'avait emmené à l'hôtel. Et c'est en feuilletant le journal que j'ai vu que j'allais débuter, ouais. Parce qu'on m'avait pas dit que j'allais débuter, donc d'être de la réserve dans le groupe à titulaire en l'espace de quelques heures, c'était surprenant.
C'était bien de l'apprendre comme ça dans le journal ou tu aurais
Je pense que c'était bien finalement, parce que du coup je me suis fait un stress pendant 10 minutes, mais je m'en fous, j'étais dans la voiture, c'est pas moi qui conduisais, donc et puis après je suis arrivé à l'hôtel et je pensais qu'au match en fait.
Tu ne pensais qu'au match, d'ailleurs ça s'est passé comme ça.
Numéro 2, Willy Sagnol. Professionnel. Pickford sur Lubo, Sagnol qui récupère, impeccable Sagnol. Frappe de but qui va pouvoir tirer, superbe tir de Sagnol. Juste au-dessus des buts de Pascal Almeida.
Fin de cette rencontre, un but partout entre la Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais.
Je suis sûr que tu te souviens de cette frappe quand tu débordes et quand tu viens frapper.
Ouais, et je reviens dans l'axe et je frappe pied gauche.
Ouais.
Alors que bon, c'est... déjà je suis défenseur, je ne frappe jamais aux cages. Mais en fait, c'est cette action qui m'a donné confiance. Je me suis dit bah tu peux y arriver.
Ouais, et tu ne vas pas rester très longtemps à Saint-Étienne, mais ça, on en parlera peut-être maintenant d'ailleurs dans un nouveau papier avec Willy Sagnol dans la boîte à souvenirs.
63 points.
63 points. Nous allons faire un saut de puce. Qu'est-ce que ça t'évoque, 63 points ?
Pas grand-chose en fait.
Pas grand-chose. Si je te dis...
Ah, si. Bordeaux.
Bordeaux. Ta première année à Bordeaux.
2014-2015.
On est en 2014. D'ailleurs, je vais te rafraîchir cette mémoire. Tu te souviens contre qui tu joues lors de ton premier match avec Bordeaux en Ligue 1?
Oui, de mon premier et de mon dernier. Enfin, de la saison.
Oui.
Premier de la saison et dernier de la saison, puisque les matchs avaient été inversés. Et c'était contre le coach.
Exactement, le Montpellier de Roland Courbis. Nous sommes le 9 août 2014, premier match de Ligue 1 de Willy Sagnol, dans la peau du costume d'entraîneur, évidemment.
Dès que j'ai eu la confirmation que Zinedine Zidane ne viendrait pas entraîner Bordeaux, j'ai tout de suite enchaîné, et le choix de Willy Sagnol.
Montpellier-Bordeaux, la Mosson, Julien Landry est dans la place. D'un côté, un entraîneur qu'on connaît bien, Roland Courbis. De l'autre, un novice, Willy Sagnol.
Je suis excité, je suis fier.
Et l'ouverture du score, bordelais !
Willy Sagnol tient un très bon résultat dès ses débuts en Ligue 1, et c'est bien Bordeaux qui s'impose 1-0 à Montpellier.
Et la saison sera magnifique pour toi. Pourquoi ça marche si bien cette année-là ?
Parce que... peu de blessés et pas de Coupe d'Europe. J'ai eu des joueurs qui ont été très à l'écoute, qui se sont donnés à fond dans le projet de jeu. Ça nous a permis d'avoir même plutôt une très bonne attaque cette année-là. Et d'arriver à 63 points avec l'effectif qu'on avait, je veux pas en tirer de gloriole ou quoi que ce soit, mais je pense que ça tenait presque du miracle de marquer autant de points. D'ailleurs, les Girondins, depuis le titre de 2010, je crois, n'ont jamais marqué 63 points dans une saison.
63 points avec les Girondins de Bordeaux. Ton ascension en tant qu'entraîneur a été fulgurante car tu reprends les espoirs en 2013. Et l'année d'après, on a entendu d'ailleurs Jean-Louis Triaud dans ce petit extrait, le président de Bordeaux à l'époque, te choisit en 2014. Est-ce que tu t'attends à ce que ça aille si vite ?
Non, pas du tout. Fin de saison, enfin au mois de mai, parce qu'il y a toujours des jeux de chaises musicales. Bah, j'ai deux appels de Lyon et de Bordeaux. Voilà.
Et donc tu choisis Bordeaux, pourquoi ?
Parce que j'ai bien aimé le discours de Jean-Louis Triaud. Il me rappelait un peu où Lyonnais sous certaines formes, c'est-à-dire le côté un peu paternaliste, le côté un peu chef de famille. Moi, j'aimais bien ça. Même si les discussions avec Jean-Michel Aulas s'étaient très très bien passées, on s'était vu à Paris. Moi, le discours était très bon, mais à un moment donné, voilà, il faut faire un choix et on choisit pas contre un club, on choisit pour un club et j'ai voulu choisir pour Bordeaux à ce moment-là.
Et tu n'as jamais regretté ce choix?
Pas du tout, pas une seconde.
La première saison donc se passe très bien, 63 points. D'ailleurs, beaucoup de le monde du football parle de toi en bien comme entraîneur. T'as repris les espoirs, invaincu, les Girondins de Bordeaux, incroyable. À la fin de la saison, tu vas jouer la Ligue Europa. Est-ce que tu sens que ça va être compliqué?
Oui.
Parce que la deuxième, oui. Tu sens que ça va être très très dur.
C'est pas que je le sens, je le sais. Même si je suis entraîneur novice encore entre guillemets, je le sais parce que quand on finit la saison à 63 points et que j'essaie de dire à mes dirigeants, il y aura une Coupe d'Europe l'année prochaine, il va falloir se renforcer, que les premiers retours que j'ai, oui, on va se renforcer, faut pas s'inquiéter, part en vacances tranquille, et que au retour des vacances, non, il faut d'abord faire partir des joueurs avant de pouvoir en acheter d'autres. Je savais qu'on allait ramer, ça partait pas dans le bon sens. Voilà.
Ça ne partait pas dans le bon sens et preuve en est, 14 mars 2016, après cette défaite face à Toulouse, 4-0, ce sera la fin de ton aventure girondine.
Et la belle soirée toulousaine va s'achever dans les arrêts de jeu avec ce but d'Oscar Trérot, 4-0, 18 buts encaissés en 7 matchs pour les Girondins.
Ça a été une souffrance ce moment-là pour toi ? Le moment d'apprendre que c'était terminé ?
Non, pas du tout, parce que ça, le match c'est le samedi et le dimanche matin, en discussion avec Jean-Louis Triaud, je lui dis voilà, je lui fais comprendre avec tous les blessés qu'on a, j'ai plus de solution. J'ai tout essayé en mettant des joueurs, même de les faire changer de poste. J'ai tout essayé. J'avais eu l'impression d'avoir tout essayé et je pense que dans mon discours, ça, il s'est dit, il a plus la clé. Donc quand un entraîneur a plus la clé, il faut passer à autre chose.
Avec le recul, est-ce que tu aurais dû partir après la première saison, sachant qu'on t'avait dit que on renforcerait l'équipe, mais finalement ça n'a pas été trop le cas?
Oui, mais alors si j'avais été entraîneur depuis plus longtemps, je pense que j'aurais dit à ce moment-là oui, stop, parce que votre vision de l'avenir, pour moi, elle nous conduit dans le mur sportivement. Alors économiquement, ça c'est des données que moi j'ai pas, mais comme j'étais un jeune entraîneur, je me suis dit j'ai pas le droit de démissionner, j'ai pas le droit, pas après un an.
Jean-Louis Triaud, on l'écoute justement ce jour de mars 2016 où il prend la décision de se séparer de toi.
Je voudrais rendre hommage à Willy Sagnol. J'avais un excellent contact avec lui. Il a fait preuve de beaucoup de professionnalisme. Il s'est investi à fond. Voilà, donc je le remercie.
Un très bon contact, ça n'a jamais été un vain mot, ta relation
avec
Jean-Louis Triaud.
Puisqu'on continue à se croiser et à se parler avec plaisir à chaque fois qu'on se croise. Ouais. Au contraire, et d'ailleurs, j'en profite pour le saluer.
Eh bien, c'est parfait. On va marquer une courte pause. Restez bien avec nous pour la boîte à souvenirs de Willy Sagnol. Dans quelques instants, d'autres papiers, d'autres aventures de sa vie. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-21h,
la boîte à souvenirs.
Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, c'est la boîte à souvenirs avec Willy Sagnol. Ça continue, Willy, tu peux tirer un autre papier dans ta boîte à souvenirs. La main heureuse ou pas pour ce papier ?
4 novembre 2014.
Alors non, pas la main heureuse justement. Mon Willy, est-ce que tu te souviens de cette date ? 4 novembre 2014.
La date exacte, non, la période, oui. Oui.
Tu es invité de Sud-Ouest, tu réponds à des questions de lecteurs.
L'avantage du joueur, typique africain, c'est qu'il est pas cher quand on le prend.
Oui.
C'est un joueur qui est prêt au combat, qualifié de puissant sur un terrain. Mais le foot, c'est pas que ça. Le foot, c'est aussi de la technique, c'est de l'intelligence, c'est de la discipline. Donc il faut de tout. Il faut des Nordiques aussi. C'est bien les Nordiques. Une bonne mentalité. C'est un mélange. Hein. Une équipe de foot, c'est comme la vie, c'est comme la France, c'est un mélange.
S'ensuit une polémique terrible à ton encontre. Comment tu as vécu tout ça et qu'est-ce que ça te fait de te réécouter il y a 5 ans ?
J'ai compris que des gens, voilà, avaient pu penser ou comprendre certaines choses ou interpréter certaines choses. Il faut se remettre dans le contexte. On est début novembre 2014, mais il y a une question qui est quelles sont les qualités d'un joueur typique africain ? C'est pas moi qui dis typique africain, c'est la question qui est posée. Et j'aurais bien aimé d'ailleurs que le journal en question m'aide un peu plus à l'époque, parce que quand ça se passe, il y a des auditeurs, enfin des gens qui sont dans le studio, ça ne choque personne parce qu'ils avaient vu que c'était une question et que c'était pas moi qui introduisais un sujet, que je répondais à une question. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, moi j'avais une cible sportive qui était Isaac Tellin, parce qu'on savait que Cheikh Diabaté devait se faire opérer, il allait être absent pendant de longues semaines, voire de longs mois, et j'avais une cible qui était Isaac Tellin, qui est un joueur d'origine congolaise et suédoise.
Exactement.
Et pour moi, c'est pour ça que je parle des Africains, c'est pour ça que je parle des Nordiques aussi. Je parle des Nordiques aussi parce que il faut se rappeler, en 2013 et 2014, l'équipe de France Espoir, deux fois, s'est fait éliminer. Une fois par la Suède et une fois par la Norvège. Alors, je mélange un peu beaucoup de choses et je m'exprime, oui, pas de la meilleure des façons, parce que puisque ça prête à interprétation, forcément, ça a été mal dit. Mais j'en ai beaucoup voulu à certains. Voilà, j'en ai beaucoup voulu à certains après. Parce que c'était un peu la chasse qui a été lancée.
Je vais te faire écouter quelques extraits et tu vas pouvoir réagir, notamment Louis Saha, Antoine Camboire et Lilian Thuram.
Je suis surpris et choqué en tant que joueur de couleur. J'ai du mal à croire que Willy ait pu dire un truc comme ça.
Forcément que j'ai été humilié, j'ai été blessé. Après, il ne faut pas dire que c'est une maladresse, que ce soit très clair. Pour moi, il a fait une connerie. Maintenant, j'attends de voir sa réaction. Est-ce qu'il va donc s'excuser ? Parce que ce qu'il a dit, pour moi, c'est grave.
C'est vrai que malheureusement, nous vivons dans un pays où est-ce qu'il y a des préjugés. Et effectivement, lui renforce ses préjugés.
Ça, Willy, c'est pas passé.
Non, c'est pas passé. C'est pas passé. Par exemple, Louis Saha, quand il dit « moi, je suis un joueur de couleur », je suis désolé, mais en Afrique, il n'y a pas qu'une couleur en Afrique. Donc moi, j'ai pas compris. Il n'y avait rien qui était dit sur la couleur. Beaucoup ont ramené ça à la couleur de peau, beaucoup ont réagi sans avoir écouté ce que j'avais dit. Simplement, on leur a fait écouter des bribes, ou on leur a dit, tiens, machin, il a dit que. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup sont montés, enfin beaucoup, certains sont montés au créneau et ont crié très fort, mais c'est les mêmes qui m'appelaient après pour s'excuser. Donc, ce que j'aurais aimé, c'était qu'ils s'excusent aussi fort qu'ils ont crié au départ.
Je ne sais pas si nos auditeurs se rappellent de cette période, mais je m'en souviens très bien. Et tu étais véritablement pris dans une machine à laver. Comment tu as vécu ça, toi, personnellement ?
Moi, c'était... En plus, pour reprendre certains, des mecs comme Thuram, on a quand même vécu certaines choses en équipe de France ensemble pendant de très longues années. Thuram, j'aurais pu dire Vieira, j'aurais pu dire les mêmes de cette génération-là. Et avec tout ce qu'on a vécu, moi j'ai une conception de l'amitié qui est complètement différente de la leur.
Et toi
pour... Et moi, je l'ai vécu, mais c'était un drame. Moi, c'était un drame personnel. Pendant deux ans, c'était un drame. Voilà, j'étais invivable, j'étais même à la maison, avec ma femme, avec mes gamins, avec tout le monde, j'étais invivable.
On se souvient que tes joueurs t'ont pas mal soutenu, notamment Cheikh Diabaté. On se souvient du match d'après où il marque un but, où il te saute dans les bras, toi qui es sur le banc de touche. Tu as toujours senti un soutien de l'institution bordelaise ?
Des joueurs, oui. Des joueurs, très clairement. Parce que les joueurs me côtoyaient au quotidien. Parce que même avec certains, on peut parler de Cheikh. Cheikh, on est devenu très proches. Surtout, enfin... parle bien de nos enfants qui sont devenus un peu les meilleurs copains du monde, donc on est devenus très proches, on a gardé une belle relation et moi j'ai j'ai la façon dont le vestiaire a montré notamment quelques jours plus tard dans ce match à Lens leur soutien, oui, ça m'a beaucoup marqué, oui, ça m'a beaucoup aidé. Après, ça a été une période très très difficile.
Je sais que depuis 5 ans, ce n'est pas une histoire sur laquelle tu aimes revenir, que tu as envie de t'épancher. Ça t'a fait quoi d'en parler? Rien, quelque chose quand même?
Ben si, parce que ça me fait revenir à ce moment-là et je veux surtout pas y revenir. C'est parce que c'est pas moi, parce que les gens qui me connaissent savent qui je suis. Ceux qui me connaissent pas, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Les Pape Diouf qui appelaient à la grève générale, il peut penser ce qu'il veut. Ça, je peux le dire très clairement, j'en ai rien à foutre parce qu'il me connaît pas. Quand on connaît pas quelqu'un, on n'en parle pas. Et voilà, je pense que ouais, c'est compliqué. Mais ça m'a, c'était un poids pendant très longtemps, ouais.
Bon, bah passons à une autre étape de ta carrière. Alors, un autre papier dans la
boîte à souvenirs. Plus joyeuse, peut-être.
Avec Willy Sagnol. Oh, il reste, oui, que des choses joyeuses, normalement.
Ah, Flankengott.
Flankengott. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, Willy?
Flanken, ce sont des centres, et Gott, c'est Dieu.
C'est de l'allemand?
C'est de l'allemand.
C'est de l'allemand, d'ailleurs, les Allemands t'aiment bien. À 2008, tu vas tout gagner avec le Bayern de Munich et tu vas être appelé Flankengott, le dieu des centres. C'est pas mal comme surnom quand même.
C'est... Il pourrait y avoir pire, oui.
Tu t'entraînais à l'époque énormément.
Beaucoup,
est-ce
ouais.
que tu en faisais une marque de fabrique de ce centre, toi le latéral droit?
Ah oui, beaucoup, beaucoup. C'était mon entraîneur de l'époque, Ottmar Hitzfeld. Alors j'en faisais, on va dire quotidiennement. Enfin, je sais pas, une 20, 30, 40 tous les jours.
Alors, je vais te faire écouter un document. Nous l'avons joint. C'est un copain. Tu as joué avec lui au Bayern Munich. Évidemment, il s'appelle Bichente Lizarazu. Et lui, il nous a sorti une autre histoire. Mais tu vas évidemment pouvoir lui répondre. Mais sur ses centres, hein. Évidemment, pas de dossier.
Vous ne voyez pas spécialement travailler ces centres-là, mais il avait une main, quoi. Il mettait le ballon où il voulait. Et en plus de ça, il n'avait pas spécialement besoin de déborder, lui. Il suffisait juste qu'il se décale un petit peu et puis il ajustait super bien ses centres. Son surnom, c'était Flankengott, le dieu du centre. De tous les latéraux, si on prend l'histoire des latéraux, pour moi, c'est l'un des meilleurs centreurs, si ce n'est le meilleur centreur que l'on a pu observer. Vraiment une super qualité de centre, extraordinaire. Et en plus de ça, il ne travaillait pas spécialement, quoi. Nous, comme en plus de ça, on avait des avant-centres qui étaient présents dans la surface, c'était très efficace.
Bon, tu le travaillais, tu me racontes des
Alors,
histoires ou pas?
Pas du tout. Pas du tout, mais c'est que Bichente le voyait pas forcément. Bichente aimait bien aller dans la salle de muscu et travailler en salle de muscu. Moi, je détestais la muscu, donc moi, c'était surtout à la fin des entraînements. Quand lui rentrait, bah, je restais un peu et puis voilà, je faisais mes centres à ce moment-là.
Comment le public tombe amoureux de toi, le public allemand? Tu le sais ou pas?
Bah, il faudrait leur poser la question. Moi, j'ai essayé de, bah, comme j'ai pu faire à Saint-Etienne, comme j'ai pu faire à Monaco, essayer de leur faire honneur en me donnant à fond. Et j'ai parlé allemand, on va dire, assez rapidement. Alors, pour eux, ça a été aussi une chose. Et j'aimais bien porter la culotte de peau, même quand il n'y avait pas des événements
de ouais.
spécifiques. Et je pense que, après, mon nom aussi y a joué un peu. Parce que Willy Brandt, tu vois, c'est un ensemble de choses. Et puis bon, comme sur le terrain, ça se passait bien, ils ont, on a vite accroché.
Et ensuite, enfin, au début, il y a eu Lizarazu, ensuite il y a eu toi. Il y a une vraie culture française au Bayern Munich. Comment tu expliques, et encore aujourd'hui, comment tu expliques que les joueurs français arrivent parfaitement à s'intégrer à ce club et vice-versa? Parce que le Bayern Munich, c'est une véritable institution. Tout le monde ne peut pas y aller.
Non, tout le monde ne peut pas y aller, mais... quand ils vous prenaient, ils faisaient vraiment tout pour que vous vous sentiez bien. Ils étaient vraiment derrière vous, tout le temps. Alors, toujours, bien sûr, avec des objectifs de performance élevés. Mais il y avait une âme. Il y avait une âme dans ce club-là. Il y avait une âme. C'était une grande famille. On s'y sentait bien. Et une fois qu'on y était, on n'avait plus envie de partir.
Champion d'Allemagne, je le disais à 5 reprises, même si 2008, tu considères que tu n'es pas dans le lot, tu considères que tu as gagné 4 titre, parce que 2008, tu étais blessé. Tu as 4 Coupes d'Allemagne, 3 Coupes de la Ligue d'Allemagne. Tu gagnes évidemment la Ligue des Champions, la Super Coupe de l'UEFA. À Munich, tu as l'impression d'être une star?
J'ai l'impression d'être un joueur important. Le mot star, il est tellement bafoué aujourd'hui. On arrive même à faire des émissions où il y a le mot star dedans et on connaît même pas les personnes. Donc le mot star, j'aime pas ce mot star.
Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Peut-être.
Moi, je suis pas un bon danseur.
Eh bien, c'est dommage car ils nous écoutent et ils vont t'appeler pour la prochaine émission. Autre papier dans la boîte à souvenirs avec Willy Sagnol.
Ah, Juventus.
Juventus Turin, je voudrais te faire écouter juste une petite musique, ça va te rappeler quelque chose. Nous sommes au début de la saison 2005, et là, Willy Sagnol, joueur cadre installé du Bayern Munich, il va se passer quelque chose avec la Juve. Raconte-nous ça.
Ouais, il se passe que c'était un moment donné de ma carrière où voilà, j'étais en pleine maturité, ça se passait bien, donc... Et la Juve m'a approché parce que j'allais être en fin de contrat en 2006. C'est pas vu dans une période, on va dire, légale.
De mercato.
De mercato. On s'était mis d'accord d'une autre façon pour que je rejoigne la Juve en fin d'année, donc 2005-2006, en arrivant libre.
À la fin de la Coupe du Monde, donc en 2006, pour aller à la Juve, là tu signes un pré-contrat, sauf que le Bayern l'apprend.
Bah, ils savent de toute façon qu'il y a des clubs qui m'ont approché, parce qu'il y avait la Juve, le Milan, Manchester, des grands clubs espagnols. Mais Eunès, qui était manager général à l'époque, ne perdait pas espoir. Il s'est dit, tant que c'est pas signé, je peux toujours le faire changer d'avis. Voilà.
Je peux le faire changer d'avis et il va tenter quelque chose de fort. Tu es à l'hôtel, je crois, avec les dirigeants du Bayern et ils te disent de venir les rejoindre à la table. C'est bien ça, William?
Oui, oui.
Que se passe-t-il?
On tend simplement, on me fait, comme on dit dans le jargon, on fait un chèque en blanc.
On te tend un bout de papier, voilà. Et on te dit...
Mets ce que tu veux.
Mets ce que tu veux. Et comment ça se passe dans la tête de Willy Sagnol à ce moment-là, qui
le paysan.
Et peut-être, exactement...
Willy Sagnol, paysan, il est pas à l'aise.
Qui vient d'une famille...
Il est pas à l'aise.
Pauvre, populaire, en tout cas.
Pauvre, non, mais populaire, oui.
Populaire, modeste, et on lui fait un chèque en blanc, on lui dit d'inscrire un chiffre. C'est dur, ça, j'imagine.
Oui, et le chiffre est accepté, mais en fait, c'est un chiffre qui était mis pour...
Pour dissuader.
Pour les dissuader. Au-delà d'avoir fait un choix, je m'étais projeté. Sur un nouveau projet. Et je voulais tellement pas leur dire non, pas après tout ce que j'avais vécu avec ce club. Et j'ai tenté un coup de bluff, c'était pas vraiment un coup de bluff, c'était plus pour dire, si je dis ça, c'est pas dans la culture Bayern d'investir autant sur un joueur à cette époque-là. Mais c'était tout était dans le bon timing, les supporters faisaient des démonstrations un peu pour que le club fasse tout pour me garder. Il n'y avait peut-être pas non plus à ce moment-là beaucoup d'arrière latéraux droits pour pouvoir jouer au plus haut niveau. Donc tout était dans, de mon côté, et puis j'ai eu de la chance.
Tu as eu de la chance, donc on te dit, marque ce que tu veux avec tout l'état-major du Bayern. Tu reviens quelques minutes après, tu tends le papier, finalement c'est accepté. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème, Willy.
Il faut le dire à la Juve.
Comment ça se passe?
Bah, ça se passe dans la maison du directeur général de la Juve à Turin avec
c'est Moji.
Moji avec mon agent. Et on y va pour leur dire qu'on ne vient plus.
Et là, je crois qu'il y a du monde en plus chez Moji.
Il y a beaucoup de monde.
Il y a Capello.
Il a un français plutôt correct qui. J'ai très bien compris ce qu'il m'a dit.
Ça ne devait pas être très sympa.
Non. Il est parti.
Comment on leur annonce? Alors comment on annonce ça?
Parce que je leur dis, finalement, j'ai fait le choix de rester au Bayern. Je m'excuse parce qu'il faut s'excuser dans ces cas-là. Je m'excuse, mais bon, on avait discuté en octobre et là on est je crois qu'on est le 2 janvier, c'est juste après le nouvel an, c'est juste avant que je reprenne la saison avec le Bayern. Voilà, on me fait comprendre que quand on est joueur de foot, on n'a pas le droit de dire non à la Juve, que ça peut avoir des conséquences, que si, que ça. Et heureusement, il y a une personne fabuleuse qui était là, qui s'appelle Monsieur Bettega, et qui à un moment donné a calmé tout le monde et qui m'a dit, écoute, je comprends, tu veux rester dans ta famille. Il parlait du Bayern comme étant ma famille. Il m'a dit, tu veux rester dans ta famille, allez, viens, on va manger des pâtes. Et c'est ce qu'on fait aussi ici en Italie, en famille. Voilà.
Et voilà.
Et
t'as mangé des pâtes.
J'ai mangé des pâtes et je suis rentré.
Et tu es rentré, finalement, tu es resté au Bayern Munich. Voilà pour cette anecdote autour de la Juventus Turin. Un autre papier dans la boîte à souvenirs. Je précise juste que c'est en janvier 2006 que ça se passe et qu'en juillet 2006, la Juve sera rétrogradée. Elle ira en deuxième division. Donc tu as bien fait.
Il y en a qui ont même dit que je le savais. Mais c'était pas vrai, je savais pas.
Dans le scandale du Calciopoli, évidemment, les matchs truqués de la Juventus en 2006. Le papier, un autre papier dans la boîte à souvenirs avec Willy Sagnol.
On finit avec une des personnes les plus, qui était une des plus importantes au début de ma carrière, Pierre Garonner.
Pierre Garonner, c'était ton premier agent?
Oui.
Exactement.
Bon, il était en fin de course parce qu'il était déjà, très âgé. Mais bon, j'étais à Saint-Étienne, il habitait Saint-Étienne, donc ça s'est fait naturellement. C'était l'agent historique de tous les joueurs de la grande époque de 76.
On est en janvier 97, tu es désormais un titulaire, jeune, mais titulaire dans cette équipe de Saint-Etienne, mais en janvier 97, le président de Saint-Etienne veut te voir. Saint-Etienne est en D2, je le rappelle.
Ouais.
Il veut te voir et il veut surtout te voir partir.
Il veut me voir partir parce qu'il y a des ennuis financiers au club, parce qu'il faut vendre des joueurs, on est en Ligue 2, et il y a déjà Grégory Coupé qui est parti à Lyon, et qu'il faut, il faut encore enflouer les caisses, donc on me dit, il y a Monaco qui s'intéresse à toi, il faut que tu partes à Monaco.
Il faut que tu partes, alors toi tu dois gérer ce transfert à Monaco, gérer la signature d'un premier contrat, donc forcément tu te retrouves avec Pierre Garonner, ton premier agent, dans le bureau du célèbre Jean-Louis Campora. Président de Monaco, comment ça se passe? Pas facile de négocier avec Campora.
Non mais moi, il faut regarder mon parcours pour le comprendre un peu. C'est, je sors de la campagne, puis jeune, et quand on arrive à Monaco et qu'on négocie le contrat, enfin, c'est, il y a Pierre Garonner qui se trompait dans les anciens francs et les nouveaux francs. Enfin, c'était.
Et j'imagine que Jean-Louis Campora en a profité, non?
Bah, ils m'ont fait comprendre les deux que j'avais signé un superbe contrat. Bon, et ben en fait, six mois plus tard, quand j'ai vraiment intégré le club, ben, je me suis rendu compte que finalement, j'avais...
On peut dire le chiffre à l'époque?
Parce oui,
que tu gagnais 1 800 francs à Saint-Etienne.
Voilà, à l'époque, c'était 40 000 francs.
40 000 francs, voilà. Donc, c'est à peu près 6 000 euros. Ouais. 6 000 euros. Et à l'époque, on te dit...
T'es le roi du monde.
T'es le roi du monde. Sauf que les autres joueurs de Monaco,
ils étaient déjà tous à 200 000 ou 250 000, mais c'était pas grave.
Non, parce que tu as appris évidemment pour voir et tu commençais à
exactement
mettre les mains dans le cambouis de ce métier. Et là, à Monaco, c'est un petit peu le choc culturel, j'imagine, d'arriver, toi qui viens de la campagne stéphanoise.
Ah, c'était dur. Les premiers mois, c'était dur. Parce que de passer de tracteur pour faire les foins au Ferrari, c'était moi je l'ai très mal vécu au départ.
Ouais, ce décor, strass, paillettes, cette vie monégasque, cette vie de footballeur, elle te correspondait pas du tout.
Pas au début, non, pas les premiers mois, ouais. Mais après j'ai eu de la chance, il y avait des joueurs, il y avait des super mecs au club, des joueurs, et il y en a quelques-uns qui s'en sont rendus compte. Je finissais l'entraînement, je rentrais chez moi, j'habitais tout seul à l'époque, et je sortais pas. Enfin, je sortais de chez moi simplement pour aller à l'entraînement.
Ouais. Qui te sort à cette époque-là?
Il y a plusieurs mecs, Fabien Barthez, Stéphane Porato, Sylvain Legvinsky, Ali Benarbia. C'était des joueurs qui ont compté pour moi à ce moment-là. Ouais.
Christophe Pignol, il te sort?
Christophe Pignol aussi, bien sûr. Mais j'ai eu vraiment de la chance, oui, qu'à ce moment-là, il y a eu beaucoup de joueurs anciens. Il y a quand même des mecs qui avaient quand même de la bouteille. Donc, ils savaient un petit peu comment parler aux petits jeunes qui étaient malheureux.
Si je peux me permettre, sur Christophe Pignol, tu dis j'ai eu de la chance. C'est lui qui a eu de la chance.
Pourquoi?
Tu t'en souviens pas? Non, parce qu'il voulait absolument participer à cette émission, Christophe Pignol.
Ah ouais?
Oui. Pour nous dire ça.
Willy était un très très bon joueur de casino. Beaucoup de joueurs à Monaco, on passait un petit peu de temps au casino. Et Willy, alors, je sais pas si c'était un très bon joueur ou s'il était chanceux, peut-être les deux d'ailleurs. Il gagnait souvent. Voilà, il gagnait souvent au casino. Et nous qui allons jouer avec lui, moi pour ma part, je perdais beaucoup. En tout cas, j'étais pas chanceux. Et un jour, j'ai dit à Willy, bah, écoute, Willy, j'ai envie de m'acheter une belle montre, un beau bijou. Willy a joué l'argent que je lui avais donné au casino. Et le lendemain, à l'entraînement, il est arrivé, il a ouvert sa voiture et il avait gagné. Voilà. Donc, il a joué mon argent, il a gagné et il m'a donné l'argent. Donc, depuis, j'ai une montre et merci Willy. J'ai une jolie montre. Merci Willy, je le remercie.
Merci Willy. Finalement, tu t'es bien accommodé au casino. Hein.
Oui, ouais, un peu trop même. Après, bon, c'est vrai que j'avais un petit peu de réussite, mais...
Tu te souviens de cette histoire?
Je m'en souviens, ouais.
En tout cas, tu resteras 3 ans à Monaco. Ensuite, ça se passera évidemment très bien pour toi. Tu vas finir en apothéose, champion de France en 2000. Et là, le lendemain du titre, vous vous dites un truc dans le vestiaire avec les, avec
bah,
les
on essaye avec tous les joueurs de se dire, allez, on part pas, tout le monde reste, et on va se faire une super Ligue des Champions ensemble.
Et non. Et tout le monde est parti.
Et
c'est toi le premier, non?
Ouais, je crois que c'est moi qui parle premier, ouais.
Ouais, ça a ouvert les vannes aux autres.
Ouais, après il y a eu David, Trezeguet, il y a eu Fabien Barthez, il y a eu Sabri Lamouchi, je crois.
Ouais, tout le monde est parti.
Tout le monde est parti, ouais.
Exactement. Et voilà, la boîte à souvenirs c'est terminé avec toi, Willy Sagnol. Mais reste avec nous car on va continuer. Dans quelques instants, nous allons sortir de la boîte. À tout de suite sur RMC.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
On débutait cette sortie de boîte avec Willy Sagnol. Nous allons interroger un copain que tu as croisé très rapidement en équipe de France. C'est Lionel Charbonnier, il a une question pour toi.
Salut mon Willy, écoute, j'ai une petite question pour toi. On s'est rencontrés en équipe de France, on s'est croisés, je dirais. Moi, je suis parti parce que, tout simplement, je ne cautionnais pas le discours, je ne comprenais pas du tout le discours de Roger Le Maire. Et voilà, donc est-ce que tu arrivais déjà à comprendre le discours de Roger et est-ce que tu voyais ce qui allait nous arriver?
Pour répondre à ça, non, je voyais pas ce qui allait arriver parce que moi, j'arrive dans une génération qui est championne du monde, championne d'Europe, et j'arrive avec ces mecs-là et je me dis, ils ont été champions du monde, champions d'Europe, peut-être avec autant de relâchement. Donc, moi, je pouvais pas savoir qu'ils étaient vraiment en pente douce. Voilà. Alors oui, son discours, je le comprenais pas parfois, parce que parfois Roger, il aimait bien faire des grands laïus, de grandes
des incantations.
Voilà. Mais après, il cautionnait ou pas, non, parce que, enfin, moi, par c'est mon éducation. Et que j'avais pas cautionné ou ne pas cautionner son discours.
C'était le respect de la hiérarchie.
Je me posais pas de questions de savoir si je savais juste que parfois je comprenais pas, mais pour moi je savais pas si c'était le plus important ou pas à ce moment-là.
Un copain monégasque maintenant qui a une question pour toi, Christophe Pignal.
Alors moi j'en ai une de question à lui poser parce que je sais que bon il est stéphanois de cœur de naissance et que il le sait. Moi aussi j'ai beaucoup d'attaches à Saint-Étienne, beaucoup d'attaches pour le club de l'ASS. Et la question que j'ai envie de lui poser, c'est quand est-ce que Willy, tu vas prendre la présidence de ce club?
T'as des potes sympas, en tout cas, hein, qui t'envoient les questions patates chaudes. Tu vois, c'est même pas une question de journaliste.
Ouais, c'est vrai, Saint-Étienne, c'est ma ville, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai appris le foot, c'est là où je suis devenu un homme, entre guillemets. Donc forcément, c'est un club qui compte énormément pour moi. De là à être un jour le président de ce club, il y a quand même un delta assez large. Il faut pas le voir comme ça. Il faut savoir à un moment donné si oui, je peux me sentir utile à ce club ou pas.
Prochaine question pour Willy Sagnol. Maxime Bossis, celui qui t'a fait démarrer à Saint-Étienne.
Ouais, Willy, d'abord, bravo pour ta carrière exceptionnelle. Je savais que tu avais le potentiel pour la faire. Mais encore une fois, est-ce que tu avais ce plan de carrière-là? Parce que je me souviens qu'à l'époque, tu étais sinon endormi, du moins assez discret en dehors du terrain. Tes qualités, tu les faisais voir sur le terrain. Est-ce que tu avais déjà le plan de carrière? Est-ce que tu pensais pouvoir être international et aller très très haut dans l'histoire du football français?
Non, il n'y a pas de plan de carrière. Comme je dis, c'était une époque où aujourd'hui, on a l'impression que les joueurs sont formatés dès leur plus jeune âge pour devenir telle ou telle chose, telle ou telle star, ou aller dans tel club ou tel championnat. À l'époque, c'était complètement différent et on prenait vraiment les choses comme elles venaient. Je trouve que c'était plus facile à l'époque. Voilà, c'était plus facile à l'époque parce que il y avait moins de pression, on se posait moins de questions et on jouait pour jouer. Non, j'avais pas de plan parce que. Parce que quand on sait pas qu'on va y arriver, c'est dur d'avoir un plan pour après.
Tu es proche de Roland Courbis, il a une petite question également pour toi. Longue, évidemment, c'est Roland Courbis. Salut Willy.
Bah écoute, un de mes regrets, c'est de ne pas avoir eu le plaisir de t'entraîner au moins une saison, vu l'importance qu'est devenu aujourd'hui le poste d'arrière latéral. Bref, une question aussi, dans ta carrière d'entraîneur qui, j'espère, n'est pas terminé, est-ce que tu aurais pas pu, à un certain moment, te débrouiller d'être entraîneur du Bayern, compte tenu, toi, de ta longévité là-bas? J'ai pensé à un certain moment que ça pouvait être possible. Est-ce que je me trompe ou ça aurait pu être possible?
On rappelle qu'en juin 2017, tu deviens entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, qui fait appel à toi, que suite à son éviction, tu es nommé entraîneur principal, tu vas disputer une rencontre, c'était un intérim, le 28 septembre 2017. Tu peux répondre à Roland maintenant?
Non. Alors, le football, c'est qu'une question de timing. Malheureusement, c'est l'histoire du football, c'est le timing. Moi, quand Carlo se fait licencier, moi, je savais très bien que ils me l'ont dit que quelqu'un devait arriver dans les jours ou dans les semaines qui suivaient. Donc non, c'était pas moi je savais que c'était pour un match. Donc je me suis pas du tout projeté. Je savais que c'était que pour un match. Ça serait passé 2 ans après. Si j'avais été dans la situation d'Hansi Flick, l'avenir aurait peut-être été différent. Mais faut pas se poser ce genre de questions de savoir si on avait été à tel endroit à tel moment, on aurait pu faire ça. Parce qu'avec Dessy,
c'était pas l'histoire en tout cas.
C'était pas l'histoire.
Une dernière question. Bichent Lizarazu, peut-être pas la plus facile comme question. Écoute bien.
Bon, mon Willy, alors, j'ai une question à te poser. En fait, ça va être plus une demande, en fait. Hein. Tu te souviens de la façon dont on fêtait les titres et tu te souviens d'une chanson qu'on aimait beaucoup, Anton aus Tirol. Et j'aimerais bien que, donc, pour les auditeurs, tu chantes cette magnifique chanson, Anton aus Tirol. Voilà. Allez, je t'embrasse très, très fort et je te souhaite le meilleur. Ciao, Willy. Ciao, mon Willy.
On remercie déjà Bichent car nous avons appris quelque chose sur cette musique. Nous l'avons découverte. Nous allons la diffuser et puis tu pars quand tu veux. Tu peux la chanter toi aussi.
Mais alors, c'est une chanson qui existe, mais on en a fait notre version à nous, un petit peu modifiée.
Alors, voilà. Fais la version que tu veux, mais je vais te rappeler de bons souvenirs.
Ich bin so toll. Ich bin der Anton aus Tirol. Ich habe keine Frisur, aber ich liebe die Natur.
Très belle chanson en tout cas, merci beaucoup Willy Sagnol. On embrasse Bichent pour avoir eu cette formidable idée. Tu lui en veux ou pas? Non.
À Bichent?
Ouais.
Je peux pas lui en vouloir. Il a tellement fait pour moi aussi dans ma carrière que je peux pas lui en vouloir du tout.
On s'est bien marré, mais pour terminer cette émission, tu vas devoir passer à l'épreuve de l'interrogatoire. Willy, est-ce que tu es prêt?
Je suis prêt, JC.
Le joueur le plus fort avec qui tu es joué?
Zidane.
Ça vient tout de suite.
Sans aucune discussion.
Le joueur le plus surcoté avec qui tu es joué?
À mon époque, la surcote n'existait pas. Si je devais en dire un, ça serait Jérôme Rothen.
Très bon interrogatoire. La défaite qui t'a fait le plus mal, Willy?
Ah, défaite de finale 2006. Je peux pas l'oublier.
Le joueur le plus difficile que tu aies eu à diriger?
J'ai pas entraîné Willy Sagnol, donc tous les autres, c'était des agneaux.
Ok, belle pirouette. Le meilleur coach que tu aies eu?
Otmar Hitzfeld.
Le pire coach que tu aies eu?
J'ai jamais été dirigé par Willy Sagnol,
Normalement, dans un interrogatoire, je devrais te balancer des lampes dans la tête et te faire craquer. Le meilleur match de ta vie?
France-Brésil, Coupe du Monde 2006. Le sentiment de qu'on était intouchable. Voilà, rien ne pouvait se passer.
Le plus beau stade dans lequel tu es joué?
Sans aucun doute, Geoffroy Guichard.
La dernière fois que tu as pleuré, Willy, c'était quand?
On en a parlé. C'était ce fameux début novembre 2014.
Et ton plus beau moment à l'antenne?
La semaine dernière, quand Christophe Dugarry m'a dit « Willy, tu as raison ».
Et ça n'arrive pas souvent. Merci beaucoup, Willy, d'avoir participé à cette aventure, à
merci
cette émission.
Merci,
dans la boîte à souvenirs, je remercie toutes les équipes techniques, évidemment, autour de Suzanne Folly, à la réalisation, Pierre Amiche, notre producteur Arthur Perrault également, qui nous a aidé pour faire cette émission avec toi, mon Willy. Le mot de la fin, je te laisse avec les auditeurs. Tu leur dis ce que tu veux pour terminer ton émission, ta boîte à souvenirs.
Bah, c'est difficile de revenir sur le passé parce que moi j'aime toujours regarder à l'avant, mais bon, dans le passé il y a toujours des bons, des moins bons moments, mais c'est ce qui fait ce qu'on est, c'est ce qui nous construit. Mais c'était un beau retour dans le temps. Voilà, j'espère que mon honnêteté par rapport à tout ce qu'on a abordé fera que les gens comprendront peut-être certaines choses à un moment donné.
RMC, la boîte à souvenirs.